Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, la toile des salles obscures se confond avec la voilure des bateaux du port de La Ciotat dans l'atelier de Laurent Canté. Olivia, auteure de Polar interprétée par Marina Foïs, anime un atelier d'écriture à La Ciotat. Son groupe, composé de jeunes venus de milieux défavorisés et traversés par les tensions révélées au détour d'une phrase ou à la faveur d'un exercice de style à l'ombre des monstres métalliques du chantier naval. Le film gravite autour de l'un de ces jeunes, Antoine, incarné par Mathieu Lucci, qui hante les calanques de jour comme de nuit, qui erre dans la fachosphère sur YouTube et qui tue le temps en s'entraînant au tir avec son cousin ouvertement nationaliste. Une relation étrange va se développer entre Olivia et Antoine, entre peur et fascination, et qui se cristallisera autour de cette question « Peut-on tuer par ennui ?» Alors, pour parler de ce film, je retrouve aujourd'hui Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Occitane.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier de Laurent Canté ?
Alors, j'ai trouvé ça formidablement bien mené de bout en bout. Déjà, dans l'esthétique, il y a des plans qui sont très beaux sur La Ciotat et sur les Calanques aussi, où Antoine aime aller se baigner. Et puis, d'un point de vue aussi plus sur le fond peut-être du film, c'est vrai que c'est super bien amené. Enfin, le film parle de radicalisation d'extrême droite, d'un jeune qui petit à petit tombe dans l'extrême droite. Et je trouve que c'est un des films les plus sincères et les plus justes sur la question aujourd'hui des jeunes qui de plus en plus se tournent vers ces extrêmes-là, en fait.
Oui, moi aussi, j'ai vraiment adoré ce film. Il m'a semblé que c'était vraiment un film qui condensait des thèmes qui, depuis longtemps... me donnait à réfléchir d'une certaine manière et qu'en fait Canté arrivait à mettre un film dessus mais avec une justesse assez incroyable. Peut-être qu'on peut d'abord commencer par au niveau de la narration quoi, les thèmes abordés, par exemple le terrorisme d'une part et en tout cas les réactions extrêmes que suscite le terrorisme chez Antoine,
ouais.
et son pendant d'extrême droite, c'est-à-dire la fachosphère en quelque sorte. Je trouve que c'est d'une justesse assez incroyable. Enfin, c'est un film qui pourrait très facilement tomber dans une forme de malaise un peu jeuniste d'un réalisateur d'un certain âge qui essaye de parler de la jeunesse.
On a un peu peur de ça au début, avec Marina Foïs qui se révèle ensuite dans le début du film, mais juste elle n'est pas aidée au début par l'image qu'on a de ces groupes, parce que c'est l'histoire d'un groupe d'écriture avec des jeunes de tout horizon de La Ciotat en fait. Et c'est vrai que l'idée de ces groupes-là, qui généralement sont assez forcés, les jeunes ne se livrent pas forcément, ou des fois on a des regards, en fait les regards adultes sur la jeunesse des fois semblent très faux ou très manichéens.
Moi la première fois que j'ai vu ce film, j'ai vraiment eu peur de ça. J'ai eu très très peur de ce moment d'intense malaise où d'un coup on est un réalisateur d'un certain âge, d'un coup porte un regard sur une jeunesse qui se demande ce que c'est d'avoir 20 ans aujourd'hui, mais qui passe tellement à côté de la plaque et qui serait un truc extrêmement... Mais d'un autre côté, il faut rappeler quand même que Laurent Canté vient du documentaire, il avait fait Entre les murs, qui avait connu un assez grand succès à l'époque, et son scénariste, c'est Romain Campillo, celui qui a fait 120 battements par minute. Et dans 120 battements, notamment, il y a une grande justesse dans la retranscription des scènes d'Assemblée Générale et tout ça. Aucun malaise pareil, et je pense que l'alliance des deux a réussi à former quelque chose d'assez...
Ouais, et puis sur cette dimension documentaire, je trouve qu'il réussit très bien un face-à-face qu'on a l'habitude d'imaginer, comme tu disais, un des grands thèmes qu'on a l'habitude d'imaginer, c'est le face-à-face justement entre l'extrême droite et une certaine gauche en fait, qui va de l'extrême gauche à une gauche moins radicale, on va dire.
Une gauche caviar.
Oui, voilà, mais c'est toujours cette gauche qui a une idée de l'extrême droite assez tranchée, qui avec des gens assez brutaux et il y a des deux côtés, il y a des représentations qui sont assez fausses de... Ça marche par camp, malheureusement, mais ça marche par camp. Et il y a des représentations des deux côtés. Et dans ce film-là, je trouve que les représentations, justement, elles volent en éclat pour une vraie rencontre entre les deux, entre ce personnage de Marina Foïs qui est typiquement
la bien-pensance, ce que sur la fachosphère en tout cas appelle la bien-pensance,
oui, c'est
espèce
ça.
De femme qui a pris, surtout la scène de l'espèce de reportage télé où elle dit oui, moi je pense que l'écriture ça leur permet de s'ouvrir.
Oui, bah oui, voilà, c'est une image, enfin c'est une représentation qui est due aux caméras qui sont présentes, et, mais il y a cette scène aussi que je trouve formidable, qui est peut-être la scène centrale du film, où elle invite Antoine à chez elle pour l'interviewer. Et à un moment, il lui dit en fait, je sais pourquoi vous intéressez à moi, je vous fais peur, en fait.
Oui,
et je trouve que c'est ça tout le nœud du film.
Oui, c'est une scène très très forte. Et puis, au niveau de la mise en œuvre de ce film, du dispositif, il me semble que ça joue beaucoup la place laissée au casting sauvage, c'est-à-dire le fait de sélectionner des acteurs. Enfin, Mathieu Lucci, il n'avait jamais fait de cinéma avant, c'est quelqu'un qui vient de la Ciotat. Et je trouve que Laurent Canté laisse une grande part. Une grande place aux acteurs pour investir, pour incarner ces personnages, mais se glisser dans les personnages plutôt que de faire une espèce de rôle de composition, tout ça. Même Marina Foy, on sent que le choix de cette espèce de star parisienne, il est pas innocent, quoi. Enfin, elle est extrêmement bien choisie à ce niveau-là. C'est un peu aussi, il la prend avec son passé, avec une forme d'identité, même médiatique, de Marina Foy, je trouve.
Bah après, elle arrive à se révéler sous un autre jour. Enfin, moi personnellement, elle a eu une carrière depuis, je sais, mais moi je la connaissais notamment des Robin des Bois.
Oui,
enfin, je la connaissais vraiment de là. Et j'avoue que j'ai pas suivi trop sa carrière après ça, mais là, je l'ai vue sous un tout nouveau jour. Enfin, elle est capable d'une gravité et d'une justesse aussi, quand même, de ce jeu. Puis même, on l'avait vu à la rencontre quand elle a dit cette scène, quand elle parle de la scène de fin. Pratiquement de fin, quand Antoine quand Antoine la force à aller sur les calanques, et qu'elle raconte à la rencontre qu'elle savait pas comment jouer. Bah, c'est vrai que c'est une très bonne réaction, en fait, de comédien, de pas savoir comment rendre ça, parce que c'est vrai que c'est une situation totalement imprévisible.
Et puis alors, on pourrait peut-être aussi parler de la mise en scène, qui est quand même assez exceptionnelle, enfin au niveau, parce que le fond, bon, on a parlé du fond, on a dit que c'était vraiment extrêmement bien traité, mais en même temps la mise en scène est assez époustouflante, enfin, notamment la place laissée au numérique et aux écrans, comment on montre cette espèce de vie numérique d'Antoine qui va de site en site, qui en même temps joue à des jeux vidéo, mais sans pour autant tomber dans ce cliché du jeu vidéo qui provoque la violence. On comprend que le montage met en parallèle des choses. Enfin, le jeu vidéo, ça va plutôt être une figure de la solitude et une volonté de recréer une action collective quand c'est un jeu en ligne. Et en fait, on se rend compte qu'Antoine arrive on comprend par touche la vie mentale, l'espace mental d'Antoine quand on le voit dans les calanques, etc., sans rien dire, avec beaucoup de finesse et des effets d'écho, notamment entre les scènes des calanques et les scènes de jeux vidéo.
Oui, enfin, mais la scène, bah d'ailleurs, le film s'ouvre sur le jeu, en fait, s'ouvre sur le jeu, sur un jeu vidéo, sur un jeu de rôle. Et après, les reprises, à la fin, quand il tire vers la lune, et dans le jeu, au début, il tire vers le soleil avec le personnage, alors qu'il est en haut sur une falaise escarpée. Il faut savoir que le scénariste du film, il vient... Enfin, c'est un joueur, enfin, c'est ce que Laurent Canté disait, c'est que Robert Campillo, c'est le scénariste du coup de ce film et de 120 battements par minute, tu m'avais dit.
Un réalisateur de 120 battements.
Réalisateur, d'accord. Et on voit qu'il y a vraiment une justesse dans ce traitement-là du jeu vidéo et de comment est-ce que le jeu vidéo, finalement, c'est pas tant un moyen de s'enfermer dans autre chose qu'un moyen d'être autrement au monde, en fait. Une nouvelle forme... peut-être aussi de retrait du monde dans la solitude du jeu de rôle qui permet des beaux paysages, mais aussi parce qu'à un moment il joue à un jeu de rôle en ligne, un MMORPG, et en parallèle aussi il y a cette lecture, parce que l'atelier d'écriture écrit un roman sur l'héritage ouvrier des calanques de la Ciotat.
C'est un roman noir sur les affaires de grève et tout ça.
Et du coup, il y a un extrait du roman qui est lu en même temps qu'il joue à un MMORPG, et un extrait du roman qui parle justement de ses réunions syndicales. Et on comprend. Enfin, il y a un beau parallèle sur le fait que le jeu vidéo, c'est une nouvelle manière pour Antoine d'être au monde de mener une action collective qui n'est pas forcément juste, mais parce qu'elle est teintée d'une certaine image, mais qui du coup n'incrimine pas les jeux vidéo.
Et puis qui est d'ailleurs mise en opposition avec ces moments où il va. Dans la garrigue avec son cousin dans la nuit, s'entraîner au tir, et qu'ils ont des discours extrêmement durs, extrêmement violents.
Et d'ailleurs, les moments de solitude, enfin, les moments où par contre il va dans les calanques seul la journée pour se baigner, c'est des moments de solitude qui sont plus forts que les moments de jeux vidéo, en fait.
Oui, c'est ça, finalement. Et puis, cette espèce d'action collective du jeu vidéo qui est mise en opposition avec l'action collective à laquelle appelle espèce de personnage de Soral un peu sur internet qui appelle à l'action collective, mais qui est une espèce de grand gourou de cette fachosphère que Laurent Canté retranscrit très très bien, je trouve. Et puis tout au long de cet atelier, Antoine se révèle quand même petit à petit. Il va essayer en tout cas d'exprimer son intériorité, mais il va faire face peut-être à des gens qui sont choqués, qui ne le comprennent pas forcément. Enfin, surtout quand il écrit ses textes sur le fait de d'un coup un personnage, un texte à la première personne sur un personnage qui d'un coup est pris d'une folie meurtrière finalement,
oui, massacre,
et massacre un petit peu comme un tueur d'école américaine. Et puis c'est des textes qui sont extrêmement forts. Et puis notamment son texte d'adieu aussi, oui. À l'atelier, oui. Qui sont des textes extrêmement forts où on sent une comment dire, où on sent une espèce d'intériorité torturée mais qui marche extrêmement bien. Et je trouve que ces textes qui jalonnent le film nous renvoient bien à cette idée de l'ennui. Enfin, il me semble que c'est quand même un film qui est avant tout sur l'ennui, sur ce personnage qui est totalement perdu dans cette ville. Il le dit lui-même, et en fait finalement on en vient à se demander si la radicalisation, parce qu'il parle aussi du Bataclan, si la radicalisation et tout ça, ça fournit pas une excuse pour tuer par ennui, pour qu'il se passe quelque chose, quoi, pour que
d'un coup, pour rompre. Ennui aussi qui est vachement porté par, enfin oui, pour rompre du coup avec la monotonie du quotidien, parce c'est aussi de ça qu'il est question, parce que il est dans les plans même, il est vachement écrasé par. Il y a un plan notamment où il traverse une petite rue et puis au-dessus il y a les grandes grues des anciens chantiers de la Ciotat, chantier naval. Bon, je vais dire un des deux et puis je ne sais pas lequel c'est. Et du coup, il est écrasé vraiment dans le plan et ça contraste totalement avec le plan final du film où bon, finalement en fait il va partir travailler sur un bateau qui part de la Ciotat et qui m'a fait beaucoup penser à Marcus de Marcel Pagnol. et du coup il est adossé au bateau, il y a juste au bastingage, oui, et il y a juste le soleil et le ciel et d'un coup c'est vachement plus ouvert comme plan et vachement plus poétique. Oui, le chantier,
alors, c'est ça, qu'il est souvent éloigné. Isolé dans le cadre et souvent en gros plan avec ce regard assez vindicatif. Enfin, l'acteur pour ça est assez bien choisi, je trouve, à ce niveau-là. Oui. Puis c'est vrai que il y a ce côté très pascalien finalement la question du divertissement.
J'ai pensé, en le voyant, il y a plusieurs scènes qui m'ont fait penser, moi, au bouquin de Jean Giono, Un roi sans divertissement, où ça raconte justement cet homme qui vit dans un village un peu paumé dans les Cévennes et qui finalement se tue parce que la phrase de fin dit sa tête prend enfin les dimensions de l'univers parce qu'il se tire une balle dans la tête et un roi, et ça se finit sur la phrase de Pascal, un roi sans divertissement
est
un homme plein de misère.
Oui, non, mais c'est exactement ça, et finalement
ça marche super bien. Il y a des scènes qui le rappellent, il y a une scène de fête dans le film, ça rappelle la scène de fête où le personnage dans le livre se sent totalement étranger, comme Antoine la fête avec
d'autres jeunes. On a l'impression qu'Antoine n'arrive simplement pas à être au monde. Alors il va fureter de part et d'autre, il va errer dans les calanques, il va errer sur internet, il va errer dans les jeux vidéo.
Il trouve pas sa
place.
Il trouve pas sa place dans le
monde, et que c'est surtout une question de place dans le monde.
Et c'est super bien rendu, sans aucun cliché,
sans aucune
condescendance. Quoi.
Un film majeur, comme dirait, positif.
Tout à fait.
Tout de suite, on retrouve Pierre pour un nouveau numéro de Cérivore. Bonjour Pierre.
Bonjour Occitane.
I'm sorry, are you addressing me? Because your authority is not recognized in Fort Kickass.
You just crossed over into the Twilight Zone.
Where is Jessica Hoyne?
Jim. James. Timothy.
This is the warship Rocinante.
I'm Ron Swanson.
In the 90s, I was in a very famous TV show.
Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler de la série Mongrels, une série britannique une fois n'est pas coutume. C'est une série qui a été créée par Adam Miller en juin 2010 et qui a été diffusée pour sa deuxième saison en novembre 2011. Donc il y a deux saisons pour un total de 17 épisodes d'environ 28 minutes chacun. C'est une série qui a été produite par la BBC et diffusée sur la BBC 3. Alors, vous allez vraiment penser qu'il y a un leitmotiv dans tout ce que je dis et tout ce que je regarde comme série, mais il est encore question d'animaux anthropomorphisés, notamment sous forme de Muppets. Et oui, en fait, c'est ça la particularité de cette série, c'est un peu les Muppets, mais pour adultes. Alors, l'histoire, eh bien, ce sont quelques animaux dans la banlieue de Londres, notamment un renard qui s'appelle Nelson et une chienne persane, Destiny, Marion, un chat débile, enfin un peu retardé, on ne sait pas trop, une pigeonne gangsta Cali et Vince, le cousin psychopathique violent de Nelson. Alors bien sûr, ces personnages sont tous extrêmement stéréotypés, hein, c'est le principe. Bien sûr, déjà, le fait de prendre des animaux sous forme de Muppets, c'est déjà une part de l'humour de cette série. Mais par exemple, Nelson est un renard extrêmement cosmopolite, plutôt ouvert, on va dire, qui aime beaucoup lire, etc., qui représente un peu ses classes moyennes supérieures, tandis que la chienne persane dont il est amoureux, elle, par contre, représente, bien sûr, en tant que chienne persane, les classes les plus supérieures, totalement snob, avec un accent bien snob et british. Pendant ce temps-là, la pigeonne gangsta Cali, bien sûr, a un accent d'immigré anglaise, britannique plutôt pour être précis. Et Vince, le cousin psychopathique, lui, représente vraiment ce renard encore à l'état de nature qui revient à la ville pour se reproduire et bouffer des animaux, voilà, tout simplement. Alors, c'est une série qui est plutôt drôle, en fait, avec de l'humour physique. Après tout, ça reste ce style Muppets où c'est facile de faire des trucs rigolos, un peu comme Guignol, avec des animaux qui se tapent dessus, qui se bouffent, etc. Et du coup, ça correspond très bien à cet aspect Muppets. Mais il y a aussi beaucoup de commentaires sociaux, hein, c'est pas juste de l'humour de blagues, etc., un peu absurdes. Il y a aussi, bien sûr, les différents personnages qui représentent certains stéréotypes, qui vont discuter entre eux, mettre en avant certains points de vue et se retrouver confrontés en tant qu'animaux à des réalités concrètes, ne serait-ce que, par exemple, le racisme qui passe de manière assez absurde lorsqu'il s'agit d'animaux. Et tout ça autour, bien sûr, de Nelson, ce personnage très métropolitain qui, du coup, est vraiment politiquement correct, très instruit, etc. Donc, il n'y a pas de véritable arc narratif sur toute la série. Il n'y a pas d'histoire qui se crée, à part quelques petits arcs par-ci par-là pour garder un peu l'intérêt. Ce qui forme vraiment l'intérêt de cette série, ce sont les épisodes en eux-mêmes qui forment une sorte de sitcom londonien. Voilà, c'est assez rare et du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant. Intéressant de le regarder, bien sûr, avec des animaux, ce qui rajoute encore un élément de rareté et sous forme de Muppets. Du coup, voilà, c'est vraiment très surprenant comme série. Alors, c'est un peu difficile d'accès, il faut l'admettre, ça reste un humour assez british. D'ailleurs, concernant cela, je vous invite à retourner sur le site de transistor.fr dans les archives pour retrouver le Sérivore fait notamment sur les séries britanniques. Et du coup, Mongrels, ça touche à plein de sujets, mais à travers les yeux des animaux, ce qui mène donc de l'absurde et aussi de l'humour sur des choses où, quand on y réfléchit un peu plus, en fait, ça peut tomber sous le sens. Du coup, ça fait un mix particulièrement efficace. Hélas, il n'y a eu que 2 saisons, la 3e étant annulée en cours de vol. Du coup, voilà, c'est tout. Je vous invite à aller ne serait-ce que l'essayer. Ce n'est pas pour tout le monde, je vous préviens tout de suite. Merci à vous.
Merci Pierre. Et tout de suite, les sorties et événements culturels de la semaine. Le mercredi 25 octobre à 20h30 au Cinéma Lumière Bellecour, une séance spéciale de La Belle et la Meute, présentée par notamment l'association de l'ENS Les Salopettes. Le jeudi 26 octobre à 18h30, le ciné-club du cinéma Lumière La Fourmi autour de Premier Contact de Denis Villeneuve. Et le samedi 28 octobre et également le dimanche 29 à l'Aquarium Ciné-Café, une séance spéciale Halloween du Rocky Horror Picture Show à 20h. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Thomas, Pierre et nos partenaires des cinémas Lumière ainsi que Rémi à la régie. À la semaine prochaine !